Actu SF, les podcasts.
Parfait, nous sommes donc maintenant au complet et nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Alors pour ceux qui étaient ici et qui ont assisté à l'entretien précédent, vous avez assisté à la construction d'un monde. Et nous, maintenant, nous allons nous faire un plaisir de détruire des mondes, hein, la fantaisie mise en scène du chaos. Et donc, ici présents pour en parler, quatre destructeurs de première force. Alors, tout au bout, Stephen Ariane, qui a écrit la trilogie de l'âge des ténèbres. Donc, mage de guerre, mage de sang et mage du chaos. Donc, on est en plein dedans. À côté de lui, Gabriel Katz, qui a écrit très récemment le diptyque La part des ombres, mais qui avait déjà détruit un certain nombre de mondes avant, en particulier dans Eternia, et puis dans La maîtresse de guerre. À côté, Emmanuel Chastelière, que l'on connaissait pour Le Village, et puis Célestopol, et qui s'est lancé avec succès dans la fantaisie avec un roman qui s'appelle L'Empire du Léopard, qui vient de sortir, hein, je crois, il y a quelques jours. Un mois, voilà. Et enfin, Pierre Bordage, qui, comme à chaque fois je le dis, on ne présente plus. Bon, alors, donc, Monsieur Pierre Bordage, grand écrivain de science-fiction devant l'internel, mais qui a aussi décidé de s'aventurer dans les terres de la fantaisie avec Arcane, dont le tome 1, La Désolation, est sorti il y a quelques mois. Et donc, grâce à ces quatre destructeurs, nous allons donc pouvoir nous lancer dans cette table ronde. Alors, je commencerai par dire que, à part Pierre Bordage qui a écrit de la science-fiction, c'est plutôt dans la science-fiction en général qu'on détruit des mondes entiers, hein. On fait exploser des planètes, des systèmes solaires, etc. Sans aucun problème. En fantasy, c'est quand même un petit peu plus restreint. Donc on se contente, on ne fait jamais disparaître tout le monde, parce que si la planète explosait d'un seul coup, le livre serait quand même assez mince après. Donc, en fantasy, disons qu'on détruit, me semble-t-il, d'autres sortes de mondes. D'abord, des systèmes sociaux, des sociétés entières peuvent être détruites. Soit c'est le système tout entier politique, soit c'est toute la culture d'un pays ou d'un continent qui sont détruites. Et je pense que c'est ce que vous avez tous allègrement fait, chacun à votre manière, dans vos romans. Donc peut-être peut-on commencer par ça. Comment ravage-t-on une société ? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous. Bon, Gabriel Katz, qui adore détruire, se lance.
J'ai une réputation absolument terrible. Je ne fais pas que détruire. Je construis parfois peu, j'avoue. En fait, non. La mécanique de destruction, pour moi, c'est une mécanique de destruction un petit peu insidieuse qui se fait par un travail sur les mentalités. C'est le cas dans Eternia, par exemple. C'est une société assez assise, assez classique, assez presque paisible dans sa construction, où tout d'un coup arrive, je vais vous spoiler le bouquin, c'est sympa, arrive un groupe d'arrivistes qui finalement, en lame de fond, commence à limer un petit peu les fondements de la société. Et petit à petit, par des petites choses, par des petites actions, leur monde s'écroule. C'est très très insidieux, ça ne se voit pas au début. On a l'impression que c'est animé de bonnes intentions, c'est parfois animé de bonnes intentions, mais le fait est que à partir de l'émergence d'un mouvement ou d'une religion ou d'une ambition politique, on se retrouve avec un monde qui se trouve grignoté à la base. C'est assez rigolo à faire pour un auteur.
Stephen.
In my books, I use all of the tools that you mentioned, whether it's religion or politics or magic or war. All of these tools are used in my novels to destroy societies and countries, and then build something new from the ashes of the old, much like we do in our world. So there's constantly, the world never stays the same. It's constantly moving forward. But something we might come on to later is destruction useful in order to advance?
On reviendra là-dessus après.
Oui, dans mes livres, en fait, j'utilise tous les outils que vous avez mentionnés, hein, que ce soit la religion, la politique, la guerre. Donc, je m'en sers pour détruire des sociétés, des pays, et ensuite, je construis quelque chose de nouveau depuis les cendres, en fait. Et en fait, je pense que c'est un petit peu la même chose que ce qu'on fait, en fait, dans la réalité. Et c'est une manière d'avancer, d'aller plus loin, et je pense que c'est le genre d'avancée utile, en fait.
Emmanuel Chastelière, vous, c'est carrément des destructions de culture.
Oui, c'est vrai que dans le cas de l'Empire du Léopard, pour faire présenter rapidement les choses, c'est un peu comme si on avait déplacé l'arrivée des conquistadors en Amérique centrale ou du Sud, mais au 19e siècle. Et donc là, c'est vrai qu'on a une civilisation bien installée dans ses certitudes qui va être en fait bousculée par une autre culture. Et c'est le vacillement qui entraîne, on va dire, une sorte de vertige qui remet en cause toutes les certitudes de la civilisation des conquérants qui vont se rendre compte que finalement, ce n'est pas si facile de s'établir en terre étrangère.
Alors, mes excuses pour le comportement de M. Katz.
Les stories Instagram, l'air de rien.
Pierre Bordage, dans Arcane.
Moi, je suis coupable de rien du tout, merci. En réalité, quand je commence mon histoire, le monde est déjà en train de s'écrouler, puisque le principe même de le récit héroïque, je pense, c'est qu'il y ait des héros, et que le héros se lève en général quand le monde va très mal. Ce qui est le principe des mythologies, comme la guerre de Troie, où ça se bastonne déjà dès le départ, et la destruction de Troie viendra parce que les dieux l'ont décidé, parce que ceci, cela. Et donc, c'est déjà en germe. Et donc, il y a des héros à ce moment-là qui se présentent pour essayer plus ou moins de ramener une harmonie perdue. Donc le monde est déjà en destruction quand l'action se déroule, entre autres dans Arcane, où il y a une corruption avérée toute dans la cité qui est sur 7 niveaux, et où elle est en train de se détruire. Alors ce que font les héros à ce moment-là qui viennent dans l'aventure, c'est d'essayer de sauver les meubles, enfin, de sauver le maximum de personnes. Mais la destruction, elle est inhérente au récit et au genre, j'ai presque envie de dire au genre fantasy, puisque le fait que ce soit des épopées héroïques, souvent, même s'il y a d'autres formes de fantasy, implique que déjà il y ait une destruction d'un monde ou une désharmonie du monde, en tout cas une disharmonie du monde, que les héros vont essayer de ramener un minimum d'harmonie.
Dans Arcane, il y a aussi quelque chose de plus insidieux, qui est la destruction, je dirais, du tissu social par l'exclusion des malades.
Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Arcane est basé sur la séparation, la loi de la séparation qui rappelle les lois de Manu en Inde qui ont créé les castes. C'est-à-dire qu'on considère que les gens doivent rester dans leur milieu pour continuer pour proroger les formes de connaissances. Puisque un joaillier donnera un fils joaillier qui lui-même aura un fils joaillier, on restera toujours dans le même milieu et on ne bougera pas de sa caste. D'ailleurs, les mariages entre castes étaient quasiment interdits. Donc, Arcane, c'est basé sur le même principe, c'est la loi de la séparation. Il y a six niveaux, sept avec les fonds, et ces niveaux sont chacun séparés les uns des autres par des labyrinthes de nature magique qui sont infranchissables, où il faut des guides qui s'appellent les torcherons pour emmener les gens d'un niveau à l'autre. Entre autres, les travailleurs qui travaillent pour les hauts, par exemple, doivent franchir différents labyrinthes comme des frontières. Et on s'aperçoit que cette loi de séparation ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on veut séparer l'humanité, finalement, il se passe des catastrophes. Et on en veut pour preuve l'actualité, puisque des murs se créent un peu partout. Et les murs n'ont jamais empêché quoi que ce soit, surtout pas le conflit. Et donc Arcane est victime de conflits comme n'importe quelle structure, parce que finalement, ça crée un sentiment d'injustice, où évidemment les niveaux les plus bas sont les plus méprisés, où le niveau des fonds sont les bagnes, hein, quasiment. Et donc Arcane s'est condamnée elle-même par cette loi de séparation à vivre des moments très difficiles. Et oui, les malades, effectivement, les malades mentaux, entre autres, sont expulsés systématiquement vers les bas parce qu'on ne veut pas les voir dans les hauts, où sont les familles régnantes et l'aristocratie. Donc, c'est systématique. Dès qu'on a quelqu'un qui a la mécrose, une sorte de lèpre de l'époque, on l'expulse vers les bas systématiquement. Une volonté purificatrice aussi.
Qui évoque certains aspects, certains souvenirs douloureux. Hein.
C'est une tendance de l'humanité à rejeter ce qui ne nous ressemble pas, malheureusement.
Alors, une autre technique aussi que vous utilisez dans vos livres pour amener et mettre en scène le chaos, et qui est sans doute l'un des ressorts les plus puissants pour faire bouger les gens, c'est la religion. Et à partir du moment, alors il y a déjà eu une discussion un petit peu sur ces sujets, et je pense que c'est utile d'y revenir, parce que pour créer le chaos, rien de mieux que d'utiliser la religion, remettre en cause un système religieux établi, créer une nouvelle religion, etc. Et c'est quelque chose que vous utilisez tous, plus ou moins. Donc peut-être pourriez-vous élaborer là-dessus.
Alors, il y a pas mal de moyens de contrôler une société ou de changer une société ou de ravager une société. La religion, c'est probablement le meilleur. Dans la mesure où un pouvoir politique, il est ce qu'il est, il est facilement réfutable, il est beaucoup plus sujet aux ambitions internes. La religion, du moment où on monte en fait une mécanique religieuse, les fanatiques que vous avez en première ligne et les gens qui croient en deuxième ligne sont des gens qui ne vous remettront jamais en cause, jamais, jamais. Ils sont très contents, ils travaillent pour ce que vous avez créé comme religion, que ce soit le grand lapin géant qui est dans les nuages, ça ne pose pas de problème. Du moment où ils y croient, le lapin écrasera le monde. On ne se pose plus de questions du tout, du tout. Et c'est totalement magique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver... honnêtement, avant d'écrire sur la religion, enfin, sur un sujet religion en fantasy, je m'étais beaucoup documenté sur la mécanique des sectes. La mécanique des sectes est totalement passionnante. C'est voir comment on peut, d'un petit questionnaire distribué à la sortie du métro avec 200 petites questions, des trucs scientologiques par exemple, en disant « Tiens, je vous fais une petite étude psychologique », de ce stade où on ramasse ça dans la rue en disant « Je ne suis pas intéressé », jusqu'au moment où on quitte sa femme, on se brouille avec ses amis, on s'endette et on n'a plus de vie, il ne se passe pas tant de temps que ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour vraiment décérébrer quelqu'un, il vous faut 6 mois, quoi. En 6 mois, vous avez une machine qui est prête à absolument tout faire pour le lapin géant qui est dans les nuages que vous avez inventé. C'est totalement magique. Et justement, pour détruire un monde, au lieu de remettre en cause les idées politiques en disant « oui, je te propose une autre idée politique, on peut discuter », là, non, non, c'est la volonté du lapin. Et à partir de là, bah, il suffit de se laisser aller, en fait. C'est très, très fascinant comme mécanique.
Je suis super déçu. Moi, je croyais vraiment au lapin géant.
Mais il n'y a pas la religion du spaghetti?
The spaghetti monster who hides behind the back side of the planet, and people pray to him, and it's a minor religion. Have you heard about this? The spaghetti monster. So they call them Pastafarians, and they pray to the great spaghetti monster, and it's now a registered religion in certain. People. So in. Maybe, but spaghetti and Pastafarians, yeah.
With or without gluten?
Well, we could take all the gluten and fire it into space, and then it can't hurt anyone.
On va laisser Roy traduire.
Thank you. Oui, donc vous connaissez pas l'histoire du monstre spaghetti qui se cache derrière la planète. En fait, ses fidèles, on les appelle. Des pastafariens, voilà, des pastafariens. Et oui, aujourd'hui, j'ai même entendu que c'était une religion qui existait vraiment, c'est enregistré. Et donc, Gabriel Katz demandait, mais est-ce que c'est avec ou sans gluten? Et ce à quoi Stéphane répondait, bah, en fait, on prend tout le gluten et on l'envoie dans l'espace.
Bon, alors, il n'y a pas de pastafarien encore chez vous, Stéphane Ariane, ça viendra peut-être, hein, puisque ça sera peut-être un nouveau dieu qui apparaîtra un jour. Un ascendant, mais Il y a par contre l'utilisation du fait religieux, et la destruction de certains cultes, et cela dès d'entrée de jeu dans le premier tome de la trilogie.
Yes, in Battlemage, in the first book, there are six or seven countries that are very, very different, politically, very different people. But one person unites them because of a prophecy. He basically, they craft this person to fit two religious prophecies to make himself out to be the great prophet. And then everybody, as you said, it's the great rabbit in this case. This is the great prophet because he can heal himself. And all of the great religious texts say, you cut someone and then they heal. And it's, this must be the prophet. And so that's what, and they think, oh, he's real. And then they do anything for the prophet because he's the great man, as it were, from history. And they follow it blindly. Religion or politics doesn't come into it. It's one uniting religion. Pardon.
Oui, dans Mage de guerre, en fait, il y a 6 ou 7 pays qui sont différents de plusieurs points de vue politiques, au niveau des peuples aussi. Ils vont tous se réunir derrière une prophétie. Et en fait, il y a un personnage en particulier qui va se construire l'image d'un grand prophète en se basant sur cette prophétie. C'est un peu comme vous disiez, le grand lapin au plus haut des cieux. Ben voilà, c'est la même chose. Les gens, en fait, le voient de telle manière que c'est une sorte de divinité. Et voilà, parce que dans les prophéties, il est écrit qu'il peut se soigner. Et justement, voilà, il peut se couper et se soigner effectivement. Alors les gens se disent, c'est lui, c'est le prophète, du coup on le suit, on fait absolument tout ce qu'il nous dit, et en fait c'est une religion du coup qui sert à unifier tout le monde derrière le grand étendard du prophète.
Dans l'Empire du Léopard, il y a une autre utilisation que vous faites, Emmanuel Chastelière, de la religion, et qui m'a semblé très intéressante, c'est le fait qu'on se situe, on est à une époque qui est indéfinie, mais où la science progresse, et en fait, la religion est détruite par la science, au point qu'on a même, je crois qu'on peut le dire sans spoiler, que l'alchimie, qui est une, entre guillemets, science d'État, même les alchimistes ne croient plus à ce qu'ils font. Donc, c'est l'athéisme en marche.
Oui, c'est vrai que du côté des envahisseurs, il y avait les alchimistes étaient effectivement liés à la religion, et avec l'essor de la science, fait que eux qui ont été souvent largement mis en avant et regardés avec une certaine déférence sont maintenant relégués en arrière-plan. Par exemple, le régiment qu'on suit dans le roman possède dans ses rangs un alchimiste d'État, mais qui est vraiment relégué en somme comme une on le garde parce que voilà, on peut pas non plus le mettre à la rue, mais c'est vrai qu'il n'est pas du tout considéré de façon positive en général par les autres membres du groupe. Et oui, c'est vrai que du coup, effectivement, on est dans une période où le pragmatisme domine du côté, en tout cas, des envahisseurs, on va dire. Alors que c'est vrai que du côté des peuples autochtones de la péninsule, il y avait aussi un côté religieux avec effectivement des croyances envers des fées. Enfin, la traduction du mot, c'est fées, mais ça ne ressemble pas du tout à des fées comme on les connaît. Ce n'est pas du tout des petites créatures mignonnes avec des ailes. Et voilà. Et en fait, finalement, cette religion-là se distinguait aussi dans le fait que les gens, en fait, étaient avant tout... c'est plutôt la peur qui les guidait dans le fait religieux, parce qu'ils avaient peur de ces créatures. Et finalement, avec l'arrivée des envahisseurs, la religion devient aussi une sorte de refuge qu'elle n'était pas avant, puisque certains ont tendance à justement se montrer plus extrémistes en essayant de renouer avec leur religion d'antan.
Oui, en quelque sorte, c'est la punition des dieux que d'avoir eu ces envahisseurs.
Pour certains, en tout cas, oui, ça peut être vu comme ça, ce qui peut évidemment entraîner une réaction, puisque cause-conséquence...
Arcane aussi, Pierre Bordage, le fait religieux est important, d'autant plus que ce sont les déesses du fleuve qui ont créé tout le système. Donc, si on le remet en cause, on se révolte contre les fondements même.
Il y a cette religion officielle, effectivement, qui est basée sur les déesses du fleuve avec leurs animaux totems que représentent qui accompagnent chacune des 7 familles régnantes. Il y a aussi 2 religions souterraines qui sont résurrection et désolation. L'une, évidemment, qui est chargée de la destruction d'Arkane, qui manœuvre, œuvre pour la destruction d'Arkane, et l'autre qui œuvre pour son maintien, son maintien, voire sa résurrection. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Gabriel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait plus puissant que la religion pour détruire une société. Et j'ai réfléchi beaucoup à ce... J'ai réfléchi beaucoup, oui, c'est un truc, c'est incroyable ce que je réfléchis. C'est beaucoup trop, d'ailleurs. Le savon compote parfois. Je me suis dit, pourquoi les religions sont si puissantes, finalement ? Est-ce que c'est parce qu'elles agissent au nom d'un être suprême dont on peut remettre en cause des décisions ? Ou est-ce aussi parce que dans l'être humain, il y a une aspiration profonde qui pourrait s'appeler spirituelle, entre guillemets, prendre avec beaucoup de pincettes, c'est-à-dire une aspiration à quelque chose d'autre, et que les religions captent comme on capte un héritage, c'est-à-dire s'en emparent. C'est une sorte d'énergie, de mouvement naturel, j'ai l'impression, de l'être humain aller vers autre chose. Et puis les religions qui sont là comme des capteurs qui s'en emparent et qui en font des dogmes et qui enferment ce désir naturel presque dans des dogmes. Et donc ça devient des armes extrêmement puissantes, quoi. Les religions, si on cherche à s'opposer aux religions, il n'y a qu'une façon de s'opposer aux religions, finalement. Ce n'est pas de les combattre par un contre-dogme ou une révolte quelconque, c'est de s'abstraire d'elles pour retrouver sa liberté intérieure et cette quête spirituelle dont je parlais au début, qui me semble, mais là je fais une hypothèse, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, je réfléchis avec vous, je n'ai aucune certitude. L'écriture, c'est d'ailleurs un moyen de réfléchir sur tout ça, c'est un moyen d'exploration extraordinaire de l'âme humaine, et ça, on en ramène des choses qui nous dépassent parfois. Ce que je ramène de tout ça, c'est effectivement, il y a quelque part une liberté intérieure à gagner, cette liberté intérieure où rien, aucune religion, aucun pouvoir ne peut vous atteindre, même si vous mourrez, parce que cette liberté intérieure, on ne pourra jamais vous la voler, votre pensée à vous. Et donc, la religion, c'est effectivement fait pour briser la pensée, pour empêcher les gens de penser par eux-mêmes. Mais si vous retrouvez le chemin de la pensée par vous-même, alors j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien contre vous. Donc, mais beaucoup de mes personnages sont des gens qui cherchent à se défaire de leur conditionnement pour justement retrouver leur liberté de penser et agir selon leur véritable nature. Et pratiquement dans tous les livres que j'ai faits, y compris dans Arkane, le personnage d'Oziel, par exemple, se débarrasse d'un tas de conditionnements qu'elle a depuis l'enfance. C'est une fille de famille régnante, elle a beaucoup d'arrogance, elle pense qu'elle fait partie d'une caste supérieure et elle va être obligée de descendre dans les fonds d'Arkane en empruntant tous les labyrinthes souterrains et même parfois en sautant d'un étage, d'un niveau à l'autre, d'une hauteur de 1700 mètres avec une sorte d'élante, un truc un peu bizarre. Ça, c'est dans le tome 2, pardon. ça, c'est juste pour vous teaser un petit peu. Et donc, tous ces principes vont éclater et c'est comme ça qu'elle va retrouver sa véritable humanité. Et en plus, elle est déformée par une maladie, ce qui la rend odieuse à elle-même. Et elle va apprendre peu à peu aussi à s'accepter, parce que c'est accepter le regard de l'autre, c'est s'accepter soi-même. Et s'accepter soi-même, c'est finalement peut-être la meilleure solution pour les personnages et aussi peut-être pour nous, les êtres humains, de s'en sortir, quoi. Donc voilà, c'était le fruit de mes réflexions d'aujourd'hui. Désolé.
Donc en fait, si on se réfère au sujet de cette table ronde, la religion dans la fantasy, c'est l'anti-chaos, c'est la manière de tout structurer parfaitement bien.
Bien sûr, et je pense que le chaos, c'est extrêmement fécond. Le véritable chaos, c'est-à-dire aller chacun à son rythme, avec sa liberté, c'est ça qui est la vraie fécondité. Et que, un peu comme la loi de la thermodynamique, si on veut se référer à la physique, qui crée du mouvement et de l'énergie, alors que dès que ça se glace quelque part, ça se gèle, il n'y a plus de vie. Et donc la religion, c'est un gel de la pensée.
Je dirais pas que c'est l'anti-chaos, la religion, en fait. Je crois que c'est un passage. C'est-à-dire qu'en général, une religion succède à une autre, qu'on parle de monde, de destruction de monde. Le fait est qu'à la base, une religion qui émerge, c'est le chaos. C'est-à-dire que c'est un ordre établi, tout le monde est content dans l'ordre établi, tout d'un coup arrive, alors je ne sais pas quoi, une religion monothéiste, le fameux lapin de tout à l'heure, etc., qui vous dit, vous savez quoi, on va tout remettre à plat. Tout ce que vous avez vu n'existe plus, ce n'est pas vrai, vous n'avez rien compris, le lapin vous explique comment ça se passe. Et à ce moment-là, on est en plein chaos, on a toute la société qui s'écroule, on a toutes les têtes pensantes de la société qui vont être remplacées les unes après les autres. Et ça passe par une période où on ne sait pas très bien où on en est. C'est ce qui se passe dans l'Eternia, d'ailleurs. Là, par exemple, dans cette salle, on pourrait prendre, bon, on pourrait avoir un grand paquet de fidèles. Ceux qui ne sont pas fidèles, on pourrait les tuer. Donc ça prend quand même quelques temps. Ceux qui sont très, très fidèles deviendront des grands prêtres. On leur mettra un truc rouge sur la tête ou un truc comme ça, ou un bâton, etc. Donc petit à petit, du chaos qu'on a créé, va naître un nouvel ordre, ce qui est terrible. Parce que finalement, on remplace une oppression par une autre avec une période de chaos qui n'est pas, comme dit Pierre, malheureusement basée sur la réflexion, mais au contraire, elle est basée sur le remplacement d'une religion par une autre. Et idéalement, effectivement, les gens, s'ils se mettent à penser, c'est magnifique. Je ne sais pas s'ils peuvent ou s'ils veulent, mais c'est tellement plus simple de s'en remettre, en fait, à quelque chose de nouveau. Donc on dit, OK, on détruit le monde existant, il n'est pas bien, il est pourri, et je vous donne autre chose à la place. Il y a, par exemple, aujourd'hui, dans les pays du Moyen-Orient, un remplacement de civilisation qui fait super froid dans le dos, quand même. Donc voilà, en fantasy, c'est la même chose avec des nains. Pardon.
Just picking up on something that Pierre was saying before about what is it about the power of religion. I know we're supposed to be talking about chaos, but with religion, everybody wants to belong, and religion provides you with a way to have connections with people beyond yourself, to form tribes, to form larger groups, and no religion is perfect, because you said a new one comes along, and whether it's a Pastafarian or a great rabbit, they're constantly coming out, and now you have ones based on science, like Scientology and crazy, and all sorts of strange ones, but there's never an end. There's always a new religion coming, because people are constantly having new ideas or evolving the things, but everyone still wants to belong. So people can move from one group to another, but it's the free thinkers, the free spirits who are sort of, not necessarily atheists, but different. I think we're all different. No, I'm still a bit of a cynic, yeah.
Pour revenir sur ce que disait Pierre au sujet du pouvoir de la religion, je pense qu'en fait tout le monde a besoin de trouver sa place, et que la religion, en fait, ça permet de créer une connexion entre les gens, et les gens du coup aiment bien pouvoir se réunir, créer des tribus, des groupes assez larges, et bien sûr aucune religion n'est parfaite, et comme on disait, dès qu'il y en a une nouvelle qui arrive, elle remplace l'autre. C'est quelque chose qui est assez cyclique, peu importe que ce soit le grand dieu spaghetti qui se cache derrière la terre, ou bien le grand lapin dans les nuages, voilà, ça peut être à peu près n'importe quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, on a même dans notre monde, on a la scientologie. Oui, c'est un peu dingue, en fait. En fait, il n'y a jamais de fin. Il y aura toujours des nouvelles religions qui vont venir remplacer les précédentes, parce qu'il y aura toujours des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, et donc il y aura toujours ce mouvement perpétuel. En fait, je pense que nous quatre, on est un petit peu des libres penseurs, y a un petit côté athée, mais voilà, je pense qu'on est tous différents dans le fond.
Je pourrais réagir là-dessus. Par rapport à la nouveauté qui arrive à chaque fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraie nouveauté, que ce sont des mécanismes qui se remettent en place sans arrêt, qui se parent de nouveautés, mais qui renferment d'anciens mécanismes. Et il y a quelque chose qui m'interloque beaucoup à notre époque, c'est que la science, alors on parlait de scientologie, un truc basé sur la science aussi, enfin dans les termes en tout cas, la science, j'ai l'impression, elle prend le relais de la religion, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à nous enfermer aussi pour des besoins simplement économiques, évidents, et que donc finalement notre liberté, bon, si, je ne sais pas si un jour on a des puces dans le cerveau, si on sera très libre, si on a nos téléphones portables, ça nous laisse très libre, si on a nos cartes bancaires, ça nous laisse très libre, si on a une sorte de culte technologique actuellement qui fait qu'on est dans un mécanisme quasiment religieux où les grands techniciens ou les grands scientifiques auraient remplacé les évêques. Il y a des dogmes d'ailleurs, des batailles de scientifiques sur certains sujets. Et que donc on est dans une sorte de mécanisme dont on sait qu'il ne fera pas le bonheur, pas plus que les dieux extérieurs qu'on a adorés autrefois, ou le dieu unique qu'on adorait assis sur son nuage n'a fait le bonheur de quiconque. Donc ce sont des mécanismes qui nous disent nous allons recevoir le bonheur de l'extérieur grâce à la technologie, nous allons pouvoir être heureux, nous aurons notre téléphone portable machin, notre truc. Et non, ça ne rend pas heureux. Ça ne répond pas du tout à l'aspiration fondamentale de l'être humain qui est autre chose. Donc et moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau leurre qu'on nous tend et que ce leurre, il est aussi dangereux que les autres, aussi pitoyable que les autres et qui nous conduira dans le mur aussi bien que les autres. Tout dépend du modèle d'iPhone, dit Gabriel.
Emmanuel, vous avez vous voulez rebondir là-dessus ou...
Non, juste sur par rapport à la religion, je dirais juste que c'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui, enfin, je respecte les gens croyants bien sûr, mais je veux dire, je vois ça comme quelque chose qui finit par figer la civilisation sur laquelle elle a une certaine dominance, on va dire. Et puis forcément, une fois que les choses sont figées, ça finit par faire cocotte minute et ça finit par exploser et recommencer. Donc c'est un peu un cycle éternel de destruction et de reconstruction, enfin, à mes yeux.
Alors justement, avec là, nous venons de parler des masses, de systèmes entiers, etc. Et le chaos, il peut être aussi personnel. C'est la remise en cause, et c'est ce que vous faites aussi dans vos romans. Et Pierre Bordage avait commencé à l'aborder tout à l'heure en parlant entre autres d'Oziel. C'est la remise en cause de son propre monde, son monde intérieur, son système de croyances, de valeurs. Et là aussi, tous vos principaux personnages en sont de parfaits exemples. Vous les détruisez petit à petit.
C'est vrai. Alors, j'ai mauvaise réputation. Il paraît que je ne suis pas tendre avec mes personnages, c'est vrai. Je les aime pourtant, hein, qui aiment bien châtier bien tout ça, les enfants. Bon, bref. Effectivement, ils passent par des stades un petit peu compliqués, les personnages. Et c'est ça, je pense, qui les rend attachants ou intéressants, parce que sinon, un personnage monocorde n'est pas très intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup d'attirance pour les chocs psychologiques que peuvent prendre les personnages. Oui, c'est sadique. Et c'est terrible. Donc, par exemple, dans Le Puits des Mémoires, qui a été ma première trilogie, la base des bases, c'est trois personnes qui se réveillent sur une falaise sans mémoire. Ni l'un, ni l'autre, ni le troisième ne savent ce qu'ils font là, comment ils s'appellent et pourquoi on veut les tuer. À partir de là, ces gens se construisent une personnalité de façon presque instinctive. C'est-à-dire qu'ils se font vraiment leur personnalité avec le fond de quelque chose qui leur reste. Donc, il y a un fond de personnalité, mais sinon, ils se construisent vraiment. Et au fur et à mesure de la trilogie, ils vont commencer à découvrir qui ils sont. Sinon, le bouquin serait très ennuyeux. Et le principe, c'est qu'ils n'aiment pas tellement ce qu'ils sont, voire ils détestent ce qu'ils sont. Et ça fait un affreux conflit intérieur entre qu'est-ce que j'étais, est-ce que j'aime ce que je suis, est-ce que je veux continuer à être ce que j'étais. C'est très, très compliqué pour eux. Il y a un peu ça dans Eternia aussi, mais je ne peux pas très, très bien, je ne peux pas spoiler, mais il y a des gens qui prennent des chocs psychologiques extrêmement violents, soit parce que leurs croyances sont balayées en une minute, soit parce qu'ils apprennent des choses épouvantables sur ce qu'ils sont et ne savaient pas être. Je trouve très très intéressant qu'un personnage soit balayé par son propre chaos en fait. Après, il s'en remet pas, il y en a qui vont se pendre et il y en a qui seront très heureux après. Paix à ceux qui se sont pendus, et d'ailleurs il y en a certains que je regrette, j'aurais pas dû les pendre. Puis des mémoires, tome 3. Voilà, voilà. Mais sinon, c'est vraiment une mécanique intéressante. Et je pense qu'il y a eu aujourd'hui une vraie évolution dans la fiction et particulièrement dans la fantasy. On n'a plus tellement de personnages caricaturaux. On n'a pas de sorcier grimaçant au sommet de sa tour qui n'a aucune raison d'être là, à part être méchant, à jeter des éclairs. On a des gens complexes et c'est plutôt bien.
Stephen, peut-être.
I put my characters through struggles as well, but probably not sadistic like this guy. My main character, who's in the first trilogy, he goes through a lot of challenges, and I'm interested as well in the psychological impacts of what happens to a character. As you said, there are no more caricatures of people. So when someone goes through something very difficult, I think about it in modern terms. So that my first book, Battle Mage, is all about a war, and if there were soldiers today, you'd think about post-traumatic stress disorder. You know, they come back from war, and how do they cope? And if you stay in a struggle a long time, how do they cope? And as you said, it's the internal struggles of what the impact can be. So I'm writing realistically within the confines of my own universe, but I don't torture them.
Bon.
Moi aussi, je fais passer mes personnages à travers des luttes, des épreuves, mais je suis pas aussi sadique que Gabriel Katz. Moi, je le fais pas de cette manière-là. Mais voilà, effectivement, dans ma première trilogie, j'ai un personnage qui subit effectivement plusieurs luttes. Mais effectivement, comme on disait, je trouve ça très bien qu'on ait de moins en moins de personnages qui sont effectivement simplement des caricatures, qui sont un petit peu plus complexes. Et dans mon premier volume, ça parle effectivement plutôt de la guerre et de ça je vais m'inspirer de choses qui sont des luttes modernes, comme par exemple on pense au stress post-traumatique après les combats, etc. Donc moi je me base sur des éléments réalistes mais que ensuite je reporte dans les confins de mon univers, mais je ne passe pas par la torture.
Stephen Ariane, quand même, Et sans spoiler trop, vous avez un groupe de personnages qui envoient des vertes et des pas mûres et qui sont vos dieux. Eux, vous les faites vraiment beaucoup souffrir. Alors, on n'en dit pas trop, mais quand même un tout petit peu. Ils sont dans un chaos mental.
Yes, so in my first trilogy, people are born with magic, and then again, it's something that you have. Some people want it, and some people don't, and you have to then learn to cope with it. It's not something you can get rid of. So some people embrace power and use it, whether it's in political or religious. In my case, it's also magic power. It's how you cope with that, and some people just don't want it. They want to get rid of it. And it causes a lot of internal struggles, whereas some people will take it and run and can become very dangerous with magic. So I have lots of different perspectives that I explore through several characters.
Oui, dans ma première trilogie, les gens en fait naissent avec la magie. Donc certains l'accueillent, certains la veulent, d'autres ne la veulent pas. Mais c'est en fait quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Donc de la même manière qu'il y a le pouvoir religieux, économique, etc. Moi, chez moi, il y a le pouvoir magique. Et donc, effectivement, on ne peut pas s'en débarrasser. Et ça donne lieu, du coup, à des luttes internes parmi les gens qui l'ont, qui ne voudraient pas l'avoir, ceux qui ne l'ont pas, mais qui voudraient la posséder. Et au final, on arrive à des choses assez dangereuses. Et ça permet de voir, notamment dans mon premier livre, ces choses-là sous différentes perspectives.
Dans l'Empire du Léopard, moi, il y a deux personnages avec lesquels vous n'êtes pas très tendre, Emmanuel Chastelière, et qui en même temps sont absolument fascinants parce qu'ils sont chacun aux opposés l'un de l'autre. Et en fait, chacun fait le chemin inverse de l'autre. Et je pense donc à Cérès, d'une part, qui vient du Coronado, qui est une envahisseuse, et à Camélia, d'autre part, qui, elle, est une indigène. Et chacun fait un chemin inverse.
Oui, c'est vrai. Je voudrais tout d'abord juste préciser que moi aussi j'aime beaucoup mes personnages, mais que je sais pas ce qui se passe, peu importe ce que j'écris, à un moment ou à un autre, ça dérape et après je passe mon temps à m'excuser du sort que je leur inflige. Donc j'en profite pour faire mes excuses publiques à leur égard. Oui, concernant ces deux personnages, c'est vrai qu'effectivement, Camélia, c'est une indigène qui a été sauvée justement du sort qui lui était promis à cause de la religion. Et elle se retrouve quelques temps plus tard à intégrer les rangs du régiment, sauf qu'évidemment, elle n'est pas forcément très bien accueillie par ses nouveaux camarades. Et c'est vrai qu'on suit son évolution et comment elle essaie aussi de se reconstruire, vu que le personnage a aussi subi des scarifications, pour faire court. Et du coup, voilà, y a aussi son image. L'image qu'elle renvoie ou qu'elle pense renvoyer aux yeux des autres, qui lui pèse beaucoup. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a Cérès, qui était donc une brillante tacticienne, qui se retrouve presque dans cette colonie, envoyée comme en exil, même si c'est un exil qui ne porte pas son nom, et qui va devoir justement se reconstruire malgré, on va dire, une certaine amertume, étant donné ce qui lui est arrivé. Et ce qu'elle considère évidemment comme une injustice à la base. Et c'est vrai, j'ajouterais peut-être le personnage de Philomée, qui est donc le vice-roi de la colonie, on va dire, pour faire vite, et qui est quelqu'un qui, pour le coup, essaye de contenter tout le monde. C'est-à-dire, il aimerait que, finalement, de cette colonie émerge une troisième voie, une nouvelle civilisation qui réussisse à marier les deux, donc les envahisseurs et les peuples indigènes. Et du coup, c'est vrai que lui... pour le coup, son chaos intérieur vient peut-être de la perte peu à peu de ses illusions, où il se rend compte lui-même qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. C'est-à-dire qu'il veut bien faire, mais il n'est pas capable d'assumer sa fonction, en somme. Voilà. Et là, lui aussi, je pense qu'il a un destin pas facile.
Pierre Bordage, dans Arcane, bon, vous avez déjà évoqué le personnage d'Oziel, mais il me semble aussi il y en a un autre que j'ai trouvé très intéressant.
Noy.
C'est le personnage de Noy.
Ouais. Alors, encore une fois, je trouve dans la fantasy, c'est extraordinaire, et même dans la science-fiction aussi, parce que la science-fiction, j'utilise comme la fantasy, ce sont des récits initiatiques principalement pour moi. Ça veut dire un cheminement de héros. Cheminement de héros veut dire des épreuves initiatiques. Épreuve veut dire nouvelle perception, nouvelle appréhension du monde. Et effectivement, Noy, on va suivre le chemin de Noy du Corridan, qui est un fils de famille qui souffre de ne pas être reconnu à sa juste valeur et qui va prendre le chemin inverse d'Oziel, c'est-à-dire il va aussi descendre dans les fonds, mais pour chercher à détruire ou à faire du mal à sa famille et à Arcane. Ce qui est très intéressant pour moi dans les personnages, c'est qu'ils doivent perdre le jugement. Moi, en tant qu'auteur, je ne suis pas là pour juger mes personnages. C'est pour ça que les méchants, je les aime autant que les gentils ou ceux qui passent pour gentils. Parce que ce sont toutes des facettes de l'humanité. Et je ne peux pas privilégier en tant qu'auteur une facette de l'humanité. Donc, je travaille aussi bien mes personnages de méchants que de bons. Et tous suivent un chemin. Et d'ailleurs, souvent, les méchants me surprennent. Parce que Noy lui-même, ça, je ne peux pas vous divulgâcher, comme disent les Canadiens. C'est joli, mais... lui, souvent, j'ai des personnages de méchants comme dans Absalom qui vont, ou Cornuo dans l'Enjeu mineur, qui est un violeur, marin, négrier, enfin, etc., vont connaître une rédemption qui me surprend parce que les personnages, moi, j'ai tendance à leur mettre un jugement dessus quand je les crée. Et puis ce jugement va disparaître parce que je suis avec eux, je suis en eux, je vis la même humanité qu'eux ou leur part humaine. Et donc, ils me conduisent souvent eux-mêmes à leur propre rédemption. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'abolir le jugement et de voir, de même que le héros doit abolir le jugement sur lui-même pour pouvoir acquérir certains pouvoirs qui vont l'aider à accomplir sa tâche. Et ça passe par un élargissement de la conscience, en quelque sorte. De même que le méchant, si on ne lui laisse aucune chance, c'est-à-dire si on le juge en permanence, il n'aura pas beaucoup d'intérêt, je pense, parce que ce qui est intéressant, c'est sa propre évolution à lui. Et je pense que les bons méchants, ce sont ceux qui évoluent soit vont vers leur rédemption, mais soit vont vers une sorte de logique humaine dont il faut aussi tenir compte. Donc, c'est une forme de chaos intérieur, effectivement. Il faut détruire tous les conditionnements qu'on a. Si Oziel n'est pas capable de détruire son conditionnement de fils de famille régnante, elle ne sera pas capable de descendre dans les fonds pour rechercher son frère qui a été banni autrefois. Elle ne sera pas capable de s'inoculer une maladie qui l'enlaidit. Elle ne sera pas capable d'entreprendre cette aventure, donc il faut qu'elle abolisse son jugement sur elle-même, sur ce qu'elle est censée représenter, pour qu'elle puisse vraiment se mettre en quête et aller vers sa propre vérité. Parce que je pense que ce qui est intéressant, aussi bien dans les personnages gentils, mais j'aime pas ce mot gentil, mais j'en ai pas d'autres, positifs que négatifs, mais même j'aime pas ça non plus. Bon, enfin, les héros et les anti-héros. Chacun doit aller vers sa vérité, je pense, et c'est ça qui fait la richesse d'un livre, parce qu'on n'épargne aucune facette de l'humanité. Et effectivement, et là Gabriel a raison, si on doit pendre les gens, on les pend, c'est comme ça, parce que c'est aussi une facette de l'humanité. Ou si on doit torturer les gens, on les torture, parce que c'est une facette de l'humanité, parce que ça se pratique couramment dans l'humanité, même de nos jours où nous sommes une civilisation entre guillemets évoluée. La torture se pratique, l'oppression se pratique, il y a de la souffrance un peu partout. Et c'est cette réalité-là que moi, en tant qu'auteur, j'essaie d'explorer sans en occulter aucune facette.
Alors, on fait là Pierre Bordage, et puis déjà avant aussi les autres intervenants, vous avez commencé à répondre par anticipation à ce qui allait être ma question suivante. Donc, le chaos était... Oui, vous lisez dans les esprits, c'est normal, puisque vous êtes non seulement des destructeurs, mais aussi des créateurs de monde, donc... Donc, alors, le chaos est-il nécessaire ? pour amener ensuite une reconstruction.
Vous avez 4 heures.
Est-ce que le chaos est nécessaire pour amener une reconstruction ? Non, concrètement, mais je crois qu'on passe toujours par là. Je crois que si l'homme était intelligent, évolué, réfléchi, et qu'il avait plein de recul et qu'il était plein de bonnes intentions, on ferait des changements de fond, lents, réfléchis, positifs, ce serait magnifique. Alors, en bouquin, ce serait extrêmement chiant, passez-moi l'expression, donc c'est bien que ça ne soit pas le cas. On passe obligatoirement par une période de chaos. Il y a un moment ou un autre où la destruction d'un monde doit passer par une période de flou, ne serait-ce que pour faire passer le pouvoir suivant pour sauveur. Parce que le principe, c'est que c'est marrant parce que l'humain a une sorte de soif de chaos en disant « moi, je suis un homme libre et je ne veux pas de règles ». Et paradoxalement, on ne peut pas vivre dans le chaos, on ne peut pas. On doit suivre quelqu'un, on doit suivre quelque chose, on doit obéir à quelque chose. Il y a quelques têtes pensantes et le reste de la populace court derrière. Donc le principe, c'est qu'une fois qu'on passe par cette période de chaos, on dit « ça y est, je suis un libre penseur », qui dure ce qu'elle dure. Il se passe ce qui s'est passé par exemple à la Révolution française. On a fait tomber les têtes couronnées, on a dit « ça y est, on est tous libres, c'est merveilleux ». Et juste après la Révolution française, qu'est-ce qui émerge ? L'Empire. D'un Napoléon qui fait empereur, c'est magnifique. Donc finalement, on ne peut pas se passer de ça. Donc je pense que le chaos est nécessaire, effectivement. Le chaos, c'est la période où on coupe la tête de tout le monde, où on fait crier des trucs dans la rue à des gens qui passent, et s'ils ne les crient pas, on les empale. Et une fois que c'est fait, revient le pouvoir, un autre pouvoir, peu importe lequel, qui pose de nouvelles valeurs, on continue à marcher droit. Et quelques jours, semaines ou siècles plus tard, il y a encore un pouvoir qui va remettre un chaos, etc. etc., etc. C'est assez fascinant comme mécanique, mais ça marche vraiment à tous les coups.
Oui, d'accord. I don't have anything to add to that, really.
Pourriez-vous élaborer, Stephen Ariane.
Il n'a rien à ajouter. Voilà, il trouve c'est
très bien. Emmanuel Chastelière.
Oui, je suis d'accord aussi, mais peut-être qu'on pourrait associer ça au temps. Enfin, pour moi, le temps est aussi une force destructrice, dans le sens où ça finit par saper finalement à peu près tout. Donc, si on associe les deux, enfin, peut-être que pour moi, effectivement, le chaos est avant tout une force créatrice, enfin moteur plutôt. Créatrice, ça, faut voir. Mais voilà, je pense que le temps joue beaucoup et finit par, malheureusement, plus ou moins tout détruire. Je pense que c'est un complément ou un terreau, on va dire, qui finit de toute façon par se manifester et qu'au bout d'un moment, le chaos va forcément émerger, peu importe les règles qu'on peut fixer, en fait, à un moment ou à un autre, ça va forcément céder sous le poids des ans, des années, des siècles qui peuvent finir par s'écouler. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça, on en revient un peu à cette idée de cocotte minute, enfin selon moi, qui fait qu'au bout d'un moment, tout système finit par s'effondrer sur lui-même, pour effectivement parfois renaître en pire, bon, voilà, ou en mieux. Jeu de mots, mais tout pourri. Mais voilà.
J'ai l'impression que le chaos fait partie de la vie, puisque de toute façon, tout est cyclique. Et par exemple, la trinité hindoue décrit parfaitement ça, c'est Shiva le constructeur, Brahma le constructeur, Vishnu le stabilisateur et Shiva le destructeur. Donc il y a forcément une notion de destruction dans toute chose parce qu'effectivement le temps détruit, d'ailleurs on vieillit, on se détruit soi-même par le temps. Les arbres même se décomposent, les plantes se décomposent et renaissent et se reconstruisent au printemps. Donc pour moi, il y a une notion cyclique qui est très importante. Et d'ailleurs, pour revenir à la mythologie hindoue, il y a ces cycles qu'on appelle les yugas, les âges. Il y a le Kali Yuga, c'est l'âge de la destruction, l'âge de fer. Et d'ailleurs, on est peut-être dans un Kali Yuga actuellement, comme si le chaos était nécessaire effectivement à la renaissance et que le chaos est fécond, porte la fécondité en lui-même, comme l'hiver porte en lui-même la fécondité.
Nous sommes tous très impressionnés par la sagesse de Pierre Bordage.
C'est pas vrai, je suis pas du tout sage.
oui, là d'un seul coup. Alors, le temps passe toujours très vite en votre compagnie. Et en vous écoutant donc parler du chaos, de la destruction des sociétés, ensuite de cette reconstruction, moi j'ai envie de vous poser la question suivante en conclusion. Donc, contrairement aux idées reçues, est-ce que la fantasy, finalement, n'est pas une littérature révolutionnaire ? elle prône la destruction pour apporter le renouveau.
Oui, c'est bon, je peux passer le micro.
C'est un peu court, monsieur Chastelière.
Je suis assez d'accord, pour en avoir quand même beaucoup lu moi-même. C'est vrai que c'est toujours, la fantaisie est souvent associée à une image assez, soit passéiste, soit un peu figée. Souvent, on assiste. Souvent, on assiste quand même à des renversements, des révolutions. Je suis assez d'accord. Ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est une tendance qui s'affirme un peu dans le genre. Moi, personnellement, ça me va tout à fait.
Gabriel Katz, qui a déjà cité la Révolution française.
Oui, là, il ne s'agit plus de Révolution française. En fait, je vais vous dire un truc très, très mercantile. C'est que avant, les bouquins de fantasy étaient un truc un peu honteux. Donc, on n'en vendait pas beaucoup parce que, oulala, lire de la fantasy, c'était un peu... Toute proportion gardée, c'est un peu comme lire des bouquins érotiques dans le métro. C'est une catastrophe. Petit à petit, en fait, il y a une sorte de renaissance de la fantaisie, si j'ose dire, qui fait qu'on devient fréquentables tous, avec nos mondes imaginaires, etc., etc. Donc je pense que... Alors je ne sais pas si George Martin y est pour quelque chose ou si en France, on arrive à petit jouer des coudes, mais on commence à se construire sur le chaos qui était avant pour faire admettre le genre. Donc je pense que si on attend encore un petit siècle, on vendra quelques centaines de milliers d'exemplaires. Ce sera super. On sera un petit peu fatigué. L'arbre qui se renouvelle, tout ça, tout ça.
I think fantasy has come out of its infancy, as you said. It's grown now. And I think the best fantasy holds up a mirror to the real world and uses it to talk about everything. Everything we've talked about, politics, religion, philosophy, whatever it might be. And I think chaos can be useful because if you look over the history of our own history, we talk about the wars, but to end on a positive, the world now, in terms of living standards and so on, is much better than it was. And I wonder if we hadn't gone through all of that chaos, would we be where we are in terms of medicine, science, and so on? So I'm going to say chaos is a good thing. Not a sadist.
Oui, en fait, comme vous le disiez, ouais, je pense que la fantaisie aujourd'hui a grandi. Et je pense que ce qu'il y a de mieux avec la fantaisie, c'est qu'en fait, elle peut prendre un miroir le tourner vers le monde. Et grâce à ça, on peut parler d'absolument tout, de la philosophie, de la politique, de l'économie. Et je pense, du coup, au final, que le chaos peut être quelque chose de très utile. D'ailleurs, si on regarde notre propre histoire et qu'on regarde, par exemple, les conflits comme la Seconde Guerre mondiale, on peut quand même estimer qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est mieux du point de vue scientifique, de la médecine, de tas de points de vue en fait. Et s'il n'y avait pas eu le chaos, on peut se demander quand même si le monde serait si bien que ça. Donc au final, oui, je pense que le chaos peut être une bonne chose.
Pierre Bordage.
Je suis un jeune auteur de fantasy. Et j'ai l'impression que la fantasy parle de l'éternel humain comme la mythologie et que donc comme l'éternel humain se renouvelle en permanence, que la fantasy comme la mythologie renouvelle en permanence l'humanité. J'ai l'impression qu'on ne sait pas bien lire nos mythologies parce qu'on les a appréhendées sous l'angle psychanalytique. Et je pense qu'il y a autre chose à faire avec les mythologies, c'est de les lire de façon très ouverte et de voir sur quel bouton ça appuie à l'intérieur de soi. Et de voir ce que ça nous enseigne sur l'humain, sur l'humanité. Je pense que ce sont des vrais enseignements sur l'humanité. Et je pense que la fantasy prend ce relais-là avec son aspect merveilleux, son aspect conteur, son aspect entertainment. Je ne sais plus comment... Divertissement, merci. Il y a cet aspect divertissant. Et derrière cet aspect divertissant, il y a aussi des vérités cachées. Et moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de fictions, il y a plus de vérité cachée que dans les pseudo-autofictions.
Gabriel Katz voulait rebondir immédiatement.
Ce n'est pas pour rebondir, parce que je sais que Jean-Luc va conclure. Je voulais juste signaler un truc en notre nom, tous les quatre. C'est qu'en fait, à l'extérieur, sont disponibles des petits flyers sur la religion du lapin qui vont vous mettre au courant de comment ça se passe. Parce que le monde, il est vraiment pourri, notre monde actuel. Donc voilà, on a un petit moyen de reconnaissance qui est ça, le lapin. Et à partir de là, vous allez voir, on va conquérir le monde. Merci.
Eh bien, merci à nos quatre auteurs pour cette table ronde qui, contrairement à ce que je craignais, finalement n'a pas été chaotique du tout. Merci encore.